VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, Yacouba Ouédraogo avec vous pour un tour d'horizon de l'actualité. Zimbabwe, les réactions continuent après que l'armée a pris le contrôle des affaires et assigné à résidence le président Robert Mugabe. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le Guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, a dénoncé ce qui apparaît à ses yeux comme un coup d'État au Zimbabwe et demandé aux militaires de se soumettre à la légalité constitutionnelle. Le président sud-africain Jacob Zuma, qui a dépêché deux médiateurs à Harare, s'est déclaré hostile à tout changement de régime inconstitutionnel. Le secrétaire général de l'ONU a lui appelé à la retenue. Antonio Guterres réclame le calme, la non-violence et de la retenue. L'Union européenne s'est dite préoccupée tout en appelant au dialogue en vue d'une résolution pacifique. Pour sa part, Theresa May, la première ministre de Grande-Bretagne, l'ancienne puissance coloniale, appelle les partis à éviter la violence et son ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, a conseillé aux ressortissants britanniques de ne pas sortir. Washington, de son côté, appelle au calme et demande le recours aux moyens constitutionnels pour résoudre les différends. L'ambassade américaine a aussi demandé à ses citoyens de rester chez eux dans ce climat d'incertitude politique.
Robert Mugabe, on le sait, est en résidence surveillée et l'armée affirme qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Pour tenter de comprendre cette situation, Claire Mourenjibou s'est entretenue avec le rédacteur en chef de VOA Afrique, Idriss Fall, qui couvre la région de l'Afrique australe depuis longtemps.
D'abord, c'est parti de la mise en garde sévère du chef de l'armée, le général Constantino Chiwenga, qui lundi, en fait, s'est levé pour dire qu'il faut que la purge cesse. On venait de limoger la semaine d'avant Emmerson Mnangagwa, le vice-président, qui était aussi, rappelons-le, un ancien ministre de la Défense et aussi un ancien chef des services secrets zimbabwéens. Donc ça s'est accéléré et le général a décidé de passer aux actes. Avant le limogeage de Mnangagwa, Joyce Mujuru, qui était l'ancienne vice-présidente, elle aussi, elle est passée à la table en 2014. Il ne faudrait pas l'oublier. Donc il y a eu comme une série de limogeages de successeurs potentiels au président Mugabe et son épouse Grace Mugabe, qui est son ancienne assistante, qui a 52 ans, a affirmé la semaine dernière à Bulawayo dans un meeting que, en fait, elle est prête à succéder à son mari. Donc, c'est généralement une lutte pour le pouvoir avec un président qui a 93 ans et qui s'est accéléré, en fait.
Pourtant, on disait que ce pays avait beaucoup de potentiel à son indépendance en 1980.
Absolument. En 1980, l'ancienne Rhodésie de M. Ian Smith devient un pays indépendant, nommé maintenant le Zimbabwe. Salisbury, l'ancienne capitale, devient Harare. Et c'est à la suite des accords dits de Lancaster House. Et M. Mugabe, quand il est arrivé au pouvoir, il a eu beaucoup de sympathie parce qu'il a appelé à la réconciliation nationale. Il a permis à Ian Smith, un pays où un noir n'avait même pas le droit de marcher sur le même trottoir qu'un blanc, il a autorisé aux blancs de rester. Et même d'avoir une groupe parlementaire de blocage. Ça a rassuré beaucoup de gens. Le Zimbabwe était exportateur de produits agricoles à l'époque jusque vers les États-Unis. Le Zimbabwe avait l'un des systèmes sanitaires les plus développés du continent au nombre de médecins par habitant. Mais 20 ans après son indépendance, M. Mugabe a décidé de faire l'expropriation des terres des Blancs. Mais n'oublions pas que les accords de Lancaster House, il y avait eu une promesse faite par la Grande-Bretagne d'aider Mugabe à financer en fait cette expropriation, ce qui n'a jamais eu lieu pendant 20 ans. D'où quand il a commencé ses expropriations et donné ça à d'anciens combattants qui n'ont jamais conduit un tracteur, la communauté internationale a tapé du poing sur la table. Il n'y a plus d'exportation agricole, le système sanitaire, tous les médecins ont fui vers l'Afrique du Sud et l'Australie et le résultat est là, l'économie est par terre.
L'Organisation sous-régionale de l'Afrique australe, la SADC, se réunit aujourd'hui au Botswana pour une session extraordinaire consacrée au Zimbabwe.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Attaque meurtrière à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. 4 kamikazes, 2 hommes et 2 femmes se sont fait exploser dans le quartier de Mouna, d'après l'agence de gestion des urgences de l'État du Borno. 18 personnes, dont les 4 kamikazes, ont été tuées et 29 autres blessées. Selon l'agence de gestion des urgences de l'État du Borno, le premier kamikaze s'est fait exploser au milieu des fidèles pendant la prière du soir, tuant 7 personnes. Une kamikaze est ensuite entrée dans une maison avant de déclencher ses explosifs, provoquant la mort d'une femme enceinte et de son enfant. Les 2 autres kamikazes se sont fait exploser avant d'atteindre leur cible. En Centrafrique, le FPRC, Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique, à la tête d'une coalition de groupes armés, suspend sa participation au programme de désarmement, démobilisation et réinsertion. Edith Sango.
Le leader du FPRC, Nouridine Adam, indique que les bureaux politiques de son groupe armé suspendent toutes les négociations en cours avec les gouvernements et retirent ses représentants du comité chargé du DDR. Un de ses proches, Fadoul Bachar, accuse le gouvernement d'être incapable de sécuriser la population, même dans la capitale, Bangui. Le FPRC se dit être exacerbé après les dernières violences qui ont fait au moins 7 morts et plus de 20 blessés aux abords du quartier musulman du PK5. Ces groupes armés s'étaient déjà opposés dimanche à l'installation des nouveaux préfets dans le nord du pays. Position également adoptée par les mouvements pour la Centrafrique, ce que la MINUSCA juge pourtant inacceptable. Hier, les conseils de sécurité ont adopté à l'unanimité une résolution reconduisant pour un an les mandats de la mission onusienne avec 900 casquets bleus supplémentaires.
En Égypte, la Cour suprême a confirmé hier une peine de prison à vie prononcée en mai 2016 à l'encontre de l'ancien guide suprême des frères musulmans, Mohamed Badi. Il a été condamné pour des violences intervenues après la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi. La Cour a confirmé cette même sentence pour 8 autres personnes dans la même affaire. Elle a également confirmé des peines de 10 ans de prison pour 29 autres personnes et 3 ans de prison pour 19 autres. Après la destitution par l'armée en 2013 du président islamiste Mohamed Morsi, les autorités se sont livrées à une répression contre ce mouvement, considéré comme une organisation terroriste.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La justice française a décidé de ne pas entendre l'ex-chef d'état-major des armées dans l'enquête sur les possibles responsabilités de l'armée française lors du génocide de 1994 au Rwanda. C'est ce qu'ont annoncé les parties civiles qui redoutent un non-lieu. En effet, la Cour d'appel de Paris a confirmé le refus du juge d'instruction d'auditionner l'ex-amiral Jacques Langsade et son adjoint de l'époque, l'ex-général Raymond Germanos, comme le réclamaient l'Association Survie, la Fédération internationale des droits de l'homme et les autres parties civiles. Elles accusent la force turquoise d'avoir sciemment abandonné aux génocidaires Hutus des centaines de Tutsis du 27 au 30 juin 1994. Les rescapés affirment que les militaires français leur ont promis le 27 juin 1994 de les secourir, mais ne l'ont fait que le 30 juin. Pendant cet intervalle de 3 jours, des centaines de Tutsis ont été massacrés dans les collines de l'ouest du Rwanda. Ici même aux États-Unis, la représentante des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a affirmé hier avoir mis le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, face à ses responsabilités dans les atrocités commises dans son pays, ravagé par une guerre civile. Elle a précisé que le gouvernement est engagé dans une campagne militaire brutale et prolongée contre l'opposition armée, ajoutant que les deux parties sont responsables d'atrocités contre les civils. Nikki Haley soutient toutefois que le gouvernement est le premier responsable de meurtres sur la base de l'ethnie et pour avoir bloqué délibérément l'acheminement de l'aide alimentaire. Elle a dénoncé cela lors d'un discours au musée du Mémorial du Holocauste des États-Unis à Washington, ici donc, martelant que le président Salva Kiir sera jugé sur ses actes car, dit-elle, il a déjà rompu ses promesses par le passé. C'est tout pour ce tour d'horizon de l'actualité en 10 minutes. Et l'actualité continue bien sûr sur www.voaafrique.com. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.